Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette série d'été de La Lorgnette. Salut Clémentine.
Salut Thomas.
Alors au long de ce premier semestre 2025, nous avons réalisé la captation de rencontres d'artistes locaux et locales avec le public. Ces rencontres, intitulées « Artistes en circuit court », se sont déroulées une fois par mois au tiers-lieu Le Bâtiment 84 à Bracieux, qu'on remercie au passage pour leur sollicitation et leur accueil. Et donc, avec qui on discute cette semaine ?
Cette semaine, on discute avec Jean-François Fouillou. Il est né en 1947 et diplômé de l'École nationale supérieure des arts appliqués de Paris. Il est installé à Montpré-Chambord depuis 1976. Et son travail de création est dédié tout entièrement au céladon, une céramique d'origine chinoise caractérisée par une teinte verdâtre, verte et translucide. Il est exposé partout à travers le monde et il était au bâtiment 84 à Bracieux pour nous en parler.
Merci Pierre, merci à Ophélie pour votre accueil ce soir. Alors moi j'ai écrit un petit texte d'introduction pour ne rien oublier, mais rassurez-vous, après c'est un échange, une discussion avec Jean-François Fouillou. Je lui poserai quelques questions, c'est surtout lui qui va s'exprimer. Et puis après il y aura un autre temps avec vous pour que vous puissiez vous aussi lui poser des questions. Donc le principe de ce programme Artiste en circuit court, il est très simple, c'est échanger chaque début de mois avec un artiste, non pas pour qu'il se livre à une performance, non pas pour qu'un musicien ou un acteur vienne jouer, non pas pour qu'un conteur vienne nous dire des contes, mais pour que l'on comprenne mieux ensemble ce que c'est qu'être artiste aujourd'hui. Comment on devient artiste, pourquoi, de quoi on vit, comment on travaille, quels sont les moments importants d'un parcours artistique, par quelles galères aussi, je ne sais pas s'il y en aura, si on va en entendre parler de ce soir, mais par quelles galères éventuellement on passe lorsqu'on est artiste. Ce rendez-vous, il est mensuel. Nous l'avons avec des artistes qui habitent et qui travaillent en région Centre-Val-de-Loire, d'où le nom de ce programme. Car les artistes, ce ne sont pas des êtres lointains qui habitent nécessairement ailleurs, qui habitent à Paris ou qui habitent à New York. Il s'agit de se rendre compte par ce programme de manière très simple, que ce ne sont pas des extraterrestres. Alors, Pierre, tu parlais d'oiseaux migrateurs, moi je parle d'extraterrestres, et que nous voisinons avec eux au sens propre du terme, et que nous avons absolument tout à gagner dans ce voisinage. Donc c'est à cela que s'attache avec les partenaires que Pierre a cités, le domaine national de Chambord, le château d'eau, la Halle aux Grains, la communauté de communes du Grand Chambord et Studio Zef. C'est à cela que s'attache aussi donc, le Grand Chambord. Donc, c'est faire en sorte que la présence d'artistes sur ce territoire constitue une richesse pour ce territoire et pour les habitants. Et donc je dois dire que lorsque nous avons évoqué pour la première fois ce programme, c'est à vous, Jean-François, que j'ai pensé immédiatement. Donc Jean-François, vous êtes céramiste, vous êtes sculpteur, vous êtes né en 1947. Vos œuvres sont présentes dans toutes les plus belles collections muséales françaises, le Musée national de la céramique de Sèvres, le Centre national des arts plastiques, le CNAP, le Musée des arts déco à Paris, les fonds régionaux d'art contemporain de Normandie, d'Alsace, le Centre d'art La Piscine à Roubaix, j'en passe. Bien sûr, vos œuvres ne connaissent pas les frontières puisqu'on vous retrouve aussi dans de très nombreux musées allemands, chinois, notamment Jingdezhen qui est le berceau historique de la porcelaine, dans des musées américains, New York, Los Angeles, Houston, etc., etc. Et l'un des documents que vous m'avez donné pour préparer ce rendez-vous, qui est celui-là, c'est la liste des expositions auxquelles vous avez participé et elle fait 8 pages. Donc je pense qu'on va s'en tenir à ce chiffre parce qu'il en dit suffisamment long sur votre parcours. Et pour autant, Jean-François, vous n'habitez ni à Berlin ni à Tokyo, mais à Montpré-Chambord, ce qui nous vaut le plaisir de vous avoir parmi nous ce soir. Alors, il y aurait des tas de manières de commencer cet échange avec vous, mais nous avons convenu, il y a à peu près 2 heures, d'entrer dans le vif du sujet en partant d'une œuvre, en la décrivant. Et donc c'est celle-ci que vous avez choisie. Je vais vous laisser en parler.
Donc c'est un groupe de pièces. Là, les photos ont été faites à Montpré-Chambord. Et en fait, c'est une proposition que j'ai eue de la part du musée La Piscine de Roubaix. Ils m'ont dédié un espace de 5 mètres sur 2 mètres et 3 autres endroits aussi dans le musée. Et donc, j'ai, plutôt que de présenter dans cet espace des pièces isolées, des pièces uniques, j'ai décidé de présenter un groupe. Voilà. Donc, pour moi, ce groupe, je l'ai appelé le Chant de la Terre. Et je l'ai conçu un peu comme une musique. C'est-à-dire que chaque pièce, pour moi, c'est un peu comme une note. Et l'ensemble crée une harmonie, crée quelque chose. Voilà. Donc, il y a un espèce de mouvement. On pourrait penser aussi à une foule avec un leader, des gens qui entraident les autres, des plus réticents. Et alors, évidemment, c'est les pièces qui font environ 80-85 cm de hauteur, réalisées en céladon. Pour ce groupe, j'en avais réalisé une cinquantaine, et à la piscine, il y a eu 34 d'exposés.
Alors, avant qu'on se jette à corps perdu dans le céladon, qu'on parle de ce que c'est, de ces 40 dernières années consacrées à corps perdu au céladon.
Depuis 87.
Ouais. Depuis 87. Ouais. Peut-être qu'on peut commencer par décrire votre technique, pas à pas, presque. Peut-être en commençant par l'argile. Comment vous obtenez l'argile à partir de laquelle vous modelez ensuite vos œuvres. Et puis après, on parlera de comment vous donnez une forme. Et puis après, on parlera peut-être de la couleur.
Alors, moi, je fabrique absolument tous mes matériaux. C'est-à-dire que j'achète en carrière. Alors, la céramique, c'est l'art d'obtenir des matières par fusion des minéraux. Donc, mes matières premières, ce sont des roches. Ce sont des argiles pour la plasticité qui permettent de donner la forme, mais d'autres roches, c'est-à-dire que principalement le feldspath, la silice, le sable de silice, moi j'utilise du sable de Fontainebleau. Le feldspath venait du Morvan, il y a une carrière dans le Morvan qui a fermé. Actuellement j'utilise un feldspath qui vient de Montluçon et un autre feldspath que je fais venir d'Espagne. Les autres matériaux, c'est du carbonate de calcium, du kaolin, mes kaolins viennent d'Angleterre. Pour l'argile, pour donner les formes, j'ai recherché une argile très blanche pour une raison très simple. Lorsque lorsque le tesson est très clair, très, très blanc, les émaux sont vivants, sont limpides, sont éclatants. La couleur est éclatante. Quand on travaille sur des terres un peu plus foncées, l'émail est un peu mangé, on va dire. Enfin, il y a un peu moins d'éclat. Donc je recherche une terre blanche. Et la plus blanche que j'ai pu trouver, elle se trouve à Tournon-Saint-Martin, donc en dessous de Tours. C'est une argile que j'achète brute en carrière, que je fais transporter dans une usine en dessous Argenton-sur-Creuse pour la faire broyer à l'état de poudre, parce que j'ai un procédé de fabrication où je mélange des poudres dans un pétrin de boulanger, tout simplement. Et ensuite, elle passe dans une deuxième machine pour lui donner la cohésion qui la désaère. Et je fais mes formes avec. L'émail se fait également avec des matériaux similaires. On retrouve exactement les mêmes produits. On retrouve le kaolin, on retrouve le sable de Fontainebleau pour la silice, on retrouve le feldspath. Et en plus, on retrouve le carbonate de calcium. Le carbonate de calcium, il a pour but d'abaisser les températures de fusion. Voilà. Et moi, je travaille... Alors, pour les céladons, je travaille à 1250 degrés. Dans les travaux précédents que je faisais, je cuisais à 1320, parfois même 1380. Je n'ai pas toujours fait du céladon. J'en ai fait dès le début. J'ai créé mon atelier en 76 à Montpellier-Chambord, rue des Mocchiens. J'ai commencé par faire des céladons, mais d'autres couleurs, enfin, tout ce que l'on peut obtenir à haute température. Alors pour les connaisseurs, c'est bon, par exemple les gouttes d'huile, les fourrures de lièvre, les rouges de cuivre, les bleus de fer, etc.
Peut-être qu'on reprendra ça tout à l'heure, peut-être même avec l'appui de quelques photos. Mais si on continue sur cette œuvre-là, comment vous donnez la forme à ces éléments ?
Alors, avant 87, je faisais tous ces émaux. 87, ce qui s'est passé, c'est que j'exposais régulièrement à la Galerie Sarver à Paris. Et Daniel Sarver propose une exposition de groupe sur le céladon. Et dont je remets mes formules anciennes en route. Et là, une erreur de pesée, je trouve un émail qui allait un peu dans le sens que je cherchais obstinément depuis déjà quelques années. C'est-à-dire un émail un peu satiné, un peu semblable aux émaux chinois du XIIe siècle. C'est-à-dire un émail qui a un reflet particulier. Les Chinois qualifiaient le reflet, il fallait que ça ressemble à du suif, à une graisse, un émail, avec un éclat un peu gras. Et là, je trouve ça comme ça par hasard, une erreur de pesée. Et c'était le début d'une recherche obstinée pendant, là, depuis 1996, je n'ai pas arrêté. Je continue à faire des progrès, parce qu'on cherche toujours à faire mieux. La pièce qui m'a déterminé à rechercher sur le céladon, c'est une pièce que j'ai découverte au musée Guimet en 1969. J'étais encore élève aux arts appliqués à Paris. Et c'est un vase d'hôtel avec autour du col un tigre qui est modelé très, très, très rapidement. Et pour moi, toute l'esthétique du céladon se trouvait dans le tigre, parce qu'il a des reliefs. Il y a des creux, il y a des mouvements très, très naturels. Et le céladon exprime tout le langage qui lui est possible. C'est-à-dire, lorsqu'il y a les arêtes, les mailles, la terre perce les mailles et on voit un peu la couleur de la terre. Dans les creux, les mailles s'amassent et donc deviennent plus foncées par effet d'épaisseur. Donc il y a tout un gradient comme ça de couleurs. Et c'est sur ces formes-là que je trouvais que le céladon s'exprimait le mieux. Donc je me suis dit qu'il s'agit de trouver des formes qui ressemblent à quelque chose, qui reprennent tous ces critères. Et alors je ne sais pas, après c'est les miracles de la création. J'ai inventé un système de mise en forme en utilisant une lame et en taillant avec cette lame dans une masse d'argile. Donc après avoir fabriqué mon argile, j'en fais une masse. Généralement c'est un mur. Et comme une espèce de mur, ça, en fonction du volume de la pièce. Et avec cette lame, je taille dedans. Donc je sépare la forme en deux, je sépare le dessus, je le mets de côté, je le jette. Généralement, ça repart dans la machine pour refaire de la terre. La forme que j'ai obtenue, elle est sacrée, j'y touche plus du tout. Mais dans ce processus de sculpture, je ne fais qu'une face. La seconde face est faite après un certain temps, quand la pièce a déjà commencé à sécher, qu'elle a durci, et je creuse l'autre côté. Voilà, ça c'est le principe. Que ce soit des formes concaves, comme j'ai fait au début, voire des bols, parce que j'aime bien faire des bols de temps en temps, des formes utilitaires, mais c'est fabriqué de la même façon. C'est-à-dire forme extérieure faite avec la lame, et l'intérieur est creusé.
Il y avait une question. Agathe, tu voulais poser une question ?
Oui, je me demandais, quand vous creusiez votre forme, vous repreniez toujours donc la forme initiale de la lame. C'est-à-dire que le côté est toujours en fonction de cette première épreuve.
Voilà. Ouais. Là, j'ai réalisé donc un parallélépipède, et voilà la fameuse lame dont je vous ai parlé. Et donc la forme qui est sculptée avec la lame, c'est extrêmement bref. Ça dure quelques secondes, c'est 10 secondes de travail. Et donc cette rapidité est nécessaire parce que la terre a la capacité de garder toutes les empreintes. C'est-à-dire les sentiments que j'ai au moment où je travaille s'impriment dans l'argile. Et donc il est nécessaire pour avoir des formes vigoureuses d'avoir un geste assez tranchant, très rapide. Alors une fois que la lame est passée, je retire la partie supérieure. Et la terre que je retire repart dans la machine pour la pièce suivante. Et vous allez voir, ce procédé donne une forme qui est définitive, qui est l'expression du geste, du moment, du sentiment du moment. Alors il est évident qu'il y a un côté un peu aléatoire. Je dégage la forme. Si la forme me plaît, je la garde. Si elle ne me plaît pas, elle retourne dans la machine pour refaire un boudin d'argile qui me servira pour la pièce suivante. Alors il y a des jours fastes, il y a des jours où ce que je fais marche pratiquement. Je vais avoir 3 heures dans la journée où ça va marcher facilement, je vais faire des formes intéressantes. D'autres jours où ça ne veut pas, où c'est un peu aléatoire. Donc vous voyez, la forme va progressivement apparaître. Alors, pour que l'argile doit être relativement plastique et assez molle. Donc il est nécessaire de ne pas trop creuser dessous, sinon elle s'effondrerait. Lorsque je fais des grandes calligraphies, qui sont des grandes formes comme ça, très très hautes, je garde des colonnes. Je réserve dans la masse des colonnes qui servent de support pendant tout le temps de séchage. Alors j'essaie de ne pas laisser... vous voyez, c'est délicat de retirer les parties d'argile. Et le moindre trace, si je touche, c'est une trace qui reste. Ça, c'est... Voilà. Et à partir de là, je vais commencer à creuser dessous, mais pas trop, parce que sinon la forme s'effondrerait.
Alors moi j'ai 2 questions. On a aperçu la lame. que vous utilisez. Et vous m'avez dit, alors là vous parliez de mystère de la création, mais à moi, vous m'avez dit d'où ça vous venait cette idée d'utiliser une forme, une lame comme ça pour découper de la matière.
Quand j'ai créé mon atelier, j'ai fait l'utilitaire. Bon, j'ai fait des pièces tournées, je faisais des assiettes, etc. Ensuite, j'ai commencé à faire des pièces tournées, pièces uniques. C'est une période où il était un peu difficile de vivre de mon métier. Et il se trouvait que dans ma famille, j'ai deux frères. Et moi, je suis l'aîné de la fratrie. Pierre, le second, a fait les arts appliqués comme moi. Et à la suite de ça, il a exercé le métier de concepteur de stand. Donc on a eu une boîte familiale de création, de réalisation de stand pour vraiment des grosses entreprises. On a bossé pour Apple, pour Gaz de France, EDF, enfin, etc. Vraiment. Et donc moi, quand j'étais en besoin de financiers, j'allais les aider à travailler. Et dans les stands, il y a toujours une partie décorative, que ce soit des sculptures, que ce soit des décors peints. Et donc, je réalisais. Alors, pour proposer aux clients, ça se fait sous forme de maquettes qui étaient à 5 pour mètre. À l'époque, ça se faisait en carton, hein, en contrecollé, etc. Maintenant, ça se fait uniquement à l'ordinateur, hein, en 3D. Mais à l'époque, il fallait découper du carton. Voilà, donc je faisais ça. Je réalisais des petits modèles à 5 pour mètre de personnages, de décors. Et quand j'avais la possibilité et le temps, je les réalisais. Voilà. Donc j'ai travaillé le polystyrène qu'il fallait découper au fil chaud, par exemple. Hein, voilà. Je faisais des grandes formes en argile que je boulais après pour faire des réalisations en polyester. J'utilisais des grandes règles pour lisser des formes comme ça. Donc c'est, à mon avis, c'est l'association un peu bizarre entre le fil chaud du polystyrène et puis les grandes lames pour tendre des formes qui m'ont amené à inventer cette lame. Voilà, je suis seul à utiliser cet outil.
Alors, moi, j'ai eu la chance de connaître Jean-François au début, la création de son atelier. Et depuis le début, on se voit de temps en temps. Mais c'est marrant parce qu'on se voit de temps en temps. Il y a une question que je ne t'ai jamais posée.
Oui.
Qu'est-ce qui fait que tu es passé tout d'un coup, effectivement, à des pièces tournées, utilitaires, et tout d'un coup, tu es parti sur le céladon à fond, et depuis, tu ne travailles que ce céladon. Ça veut dire que cette obsession, elle t'a gagné, et elle ne t'a pas lâché, puisque tu n'es pas revenu en arrière.
Oui, parce que y a une sorte de challenge, quand même. La recherche de matière, ça se fait avec des roches, et puis un trébuchet. Hein, voilà, donc on pèse les matériaux, puis on essaye d'interroger la matière. Il y a une espèce c'est la recherche de la pierre philosophale, quoi, quelque part. On veut connaître un peu les secrets de la matière. Comment, pour les Chinois, le céladon, c'est imiter le jade. Et surtout les jades archaïques. Alors le jade, il faut savoir, c'est une pierre qui est extrêmement dure, qui a un indice de dureté qui est vraiment très très élevé. Pas autant que la 6, mais c'est pas loin. Et donc ils avaient c'est des matières. Alors, le jade est translucide. Le fait qu'il était ancien, alors je sais pas, à mon avis c'est volontaire. C'est un polissage, mais qui est un peu spécial. C'est pas les jades contemporains sont extrêmement brillants comme un miroir. Hein. Et la technique le permet. Peut-être que les jades anciens, ils n'avaient peut-être pas la possibilité d'arriver au miroir, mais enfin, en tout cas, les Chinois définissaient le reflet des céladons. Il fallait que ça ressemble au suif, un reflet gras comme ça, où la matière, pas étincelant, mais où la lumière s'écrase, avec matière translucide. Et ça, si le céladon, le vert céladon, c'est un phénomène naturel, c'est-à-dire c'est un émail de haute température qui contient un peu de fer, qui est cuit en réduction. La réduction fait changer la couleur de l'oxyde de fer, le fait devenir vert, bleu s'il y en a très peu. Ça, c'est le phénomène naturel. Le fait qu'il soit translucide et avec un reflet particulier, là, c'est un travail, c'est vraiment de la cuisine, là, c'est vraiment de la recherche. Il faut jouer sur les granulométries, sur les minéraux, le choix des minéraux. Il faut jouer sur les vitesses de refroidissement. Il faut des refroidissements contrôlés, lents, pour que pendant le refroidissement, si on ralentit le refroidissement, les cristaux naissent, il y a des cristaux qui commencent à se développer en surface, ce qui leur rend si ça refroidit trop lentement, ça peut devenir opaque. Un émail complètement brillant, si vous refroidissez des heures et des heures, il va devenir opaque. Donc il faut arriver, voilà, il faut jongler avec tout ça. C'est une espèce de challenge, c'est une espèce de... Et une fois qu'on a mordu à ça, c'est dur d'en sortir. Là, j'attends ma prochaine cuisson avec une impatience folle. Parce que j'ai d'autres idées.
Peut-être on va justement, effectivement, vous précéder un peu mes questions spécifiquement sur le céladon. J'avais quand même une dernière question sur la forme. Qu'est-ce que vous essayez d'enregistrer ou de fixer dans ces formes ? Est-ce que c'est un instant ? Est-ce que c'est une énergie ? Est-ce que c'est une émotion ? Est-ce que c'est, non pas un instant, mais l'éternité ? Qu'est-ce que vous essayez d'enregistrer ?
Le geste d'un instant, un moment, c'est un sentiment. Bon, il y a un truc qui m'a étonné. Une fois, j'écoutais France Inter, et puis la personne que j'écoutais disait, si on avait les moyens de faire tourner, par exemple, une pièce romaine, comme si on écoutait un disque avec une pointe diamant, je ne sais pas, quelque chose, qu'on fasse tourner, on pourrait peut-être écouter, entendre les bruits de l'atelier, les discussions de l'atelier. Ça m'avait vraiment étonné. Parce que c'est vrai, l'argile a cette capacité, c'est vraiment garder toutes les empreintes. Moi, ce qui m'importe, c'est que quand je regarde une pièce, quand je viens de la faire, c'est qu'elle ait quelque chose dans le ventre, enfin quelque chose qui soit... qu'elle contienne quelque chose, qui soit inscrit. Alors, au départ, on a peut-être des intentions, mais entre l'intention et puis le résultat final, il y a souvent un écart. Il faut qu'elle soit habitée, il faut qu'il y ait des harmoniques. Moi, l'idée d'harmonique me plaît beaucoup. Il faut que on regarde une pièce et qu'il y ait des échos qui se produisent, qu'il y ait quelque chose.
Donc ça a à voir aussi avec le titre de l'œuvre que vous avez montré tout à l'heure, Le Chant de la Terre. En fait, oui. Vous êtes un sculpteur céramiste qui travaillait en pensant énormément au son.
Également, oui, bien sûr, oui, oui, oui. L'idée d'harmonique, oui, là, oui, bien sûr. Oui, qu'il y ait des cordes, comme sur le luth, les cordes à vide résonnent avec les cordes pincées, oui.
Ça fait un peu le lien, justement, avec cette question du céladon, parce que j'ai lu quelque part que vous jouez avec les variations du céladon comme un musicien joue avec les notes.
Oui.
Et en fait, c'est ça, vous avez apporté des petits échantillons, des tests, etc. Et finalement, votre travail de recherche, il porte sur la forme, parce qu'il y a des formes qui évoluent, etc. Mais aussi énormément sur l'émail, sur la couleur, sur la translucidité, etc.
Bien sûr, et puis il y a un protocole de fabrication qui donne le résultat. Pour moi, la matière a une puissance expressive très forte, c'est ce que je recherche. Mais il faut la mettre en œuvre et c'est pas forcément facile. Le céladon est beau lorsqu'il est posé épais. Le seul problème, c'est qu'un émail, matériellement, c'est des poudres de cailloux avec une granulométrie très fine. Généralement, c'est entre 0 et 80 microns. On fait une boue avec et on immerge la pièce dans cette boue. Il y a une pellicule qui se dépose. Mais vous avez tous remarqué que la boue dans les chemins, quand il sèche, elle fendille. Sur les pièces, ça fait pareil. Ça prend du retrait. Et ça tombe. C'est très difficile à maintenir. Donc moi, au début, j'ai mis au point une technique très, très longue qui consistait à émailler 18 fois. Je faisais 18 trempées. Deux cuissons intermédiaires. C'est-à-dire que je faisais la pièce, je la biscutais. Ensuite, je faisais un certain nombre de couches au trempé, toujours au trempé, parce que la répartition est naturelle.
Vous prenez la pièce, vous la plongez dans un bac.
On immerge la pièce complètement dans un bain. Donc les pièces de 80 cm, ça suppose des très grandes quantités d'émail. On la ressort, on les goûte, on la tient toujours, c'est du sport. Et ensuite, on la retrempe. On fait ça plusieurs fois. Il y a une limite qu'on ne peut pas dépasser. Ensuite, après séchage complet, passer au four, cuisson, basse température pour fixer ces premières couches, pour pouvoir réémailler par-dessus. Donc au tout début, je faisais deux cuissons, une cuisson biscuit, deux cuissons intermédiaires, une cuisson finale d'émail. Maintenant, j'en suis rendu à une seule cuisson intermédiaire, mais j'essaye de réduire un peu ça. C'est un challenge aussi.
Mais vous cherchez quoi ? Vous cherchez la couleur, la teinte, la translucidité,
le rapport exact,
le satiné absolu, ou au contraire
pas satiné, non,
une grande diversité de rendus.
Il y a une variation dans le rendu, ça c'est en fonction des températures. Hein. C'est, et dans un four, on a toujours une variété parce que la température atteinte n'est pas la même dans tout le four. À l'étage en haut, ça va cuire un peu moins qu'au milieu et l'étage du bas va cuire encore un peu moins. Enfin, donc il y a des variations dans la matière. Mais moi ce que je recherche, c'est le juste rapport entre la translucidité et l'éclat cireux, gras. Il y a toujours des progrès à faire, il y a toujours, toujours du travail.
Et à quoi ça ressemble une semaine de travail pour Jean-François Fouilloux ?
Ah ben, il y a des pièces en cours. Alors généralement, je travaille par vague. Donc il y a un certain nombre de pièces en cours. Vous avez vu, donc là, au moment... Alors déjà, il faut fabriquer l'argile. Donc fabriquer l'argile. Ensuite, il faut faire les ébauches avec la lame. L'ébauche ne dure pas longtemps, mais après, bon, il faut la mettre en séchage. Et par exemple, le matin, quand j'arrive dans l'atelier, si j'ai pièces en cours, je regarde quel est l'état de séchage de mes pièces pour intervenir dessus. Et pour retirer un peu de terre, puis la remettre sur le séchoir, elle va être reprise comme ça, 5 ou 6 fois. Et ensuite, lorsqu'elle sera complètement sèche, elle sera terminée. La face que j'ai sculptée dessous sera terminée au papier de verre, comme une pierre, comme... Ensuite, après, il y a les cuissons. C'est la première cuisson, biscuits, les émaillages. Et après, bah, soit le socle ou la déchetterie, ça dépend.
Et est-ce qu'il y a une grande part qui part à la déchetterie ?
Oui.
On a vu un peu votre travail, on a parlé un peu de technique aussi. J'aimerais bien qu'on revienne un peu à l'origine de votre vocation. Enfin, je ne sais pas si on peut parler de vocation. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenu artiste ?
Je pense, artiste, je pense, c'est un état d'esprit. Hein. Je pense, c'est une façon de voir la vie. C'est un besoin impérieux. Enfin, voilà, on se construit artiste comme ça par l'expérience. Mais historiquement, moi, je suis né à Corbeil-Essonnes. Quand j'étais jeune, je dessinais. Je dessinais beaucoup. Hein. J'ai encore l'odeur de langue de Chine. Vers mes 13 ans, vers les 13 ans, alors j'ai l'habitude de dessiner des grands chevaux. Je faisais des grands chevaux. J'habitais dans une impasse. Et donc, sur le goudron, je dessinais des grands chevaux, comme ça, voilà. Qui faisaient l'admiration des voisins. Donc, moi, j'étais fier, j'étais content. Et puis, j'avais une tante qui, voyant ça, m'a mis en rapport avec un céramiste de Corbeil qui sortait des arts appliqués. Donc, voilà. Donc, ça m'a créé une voie. J'ai préparé les arts appliqués. J'ai fait les arts appliqués. Là, j'ai rencontré un grand maître du dessin, Roger Plein. C'est un professeur qui m'a vraiment marqué. Il a été prof aux arts appliqués, puis ensuite aux Beaux-Arts de Paris. Ensuite, alors j'ai beaucoup de mes collègues de ma section des arts appliqués qui sont allés aux Beaux-Arts, qui l'ont suivi. Bon, moi, il fallait que je gagne ma vie, donc... À la sortie des arts appliqués, j'ai fait de l'édition quand même. J'ai travaillé dans l'édition. J'ai fait pour un patron. À l'époque, ça se faisait sans ordinateur. Hein. On faisait imprimer des textes chez un imprimeur. On les collait sur des contre-collés pour être pris en photo pour l'imprimeur. Et quand il y avait une erreur dans un texte, il fallait découper le petit R à l'exacto pour le remplacer. Rien à voir avec l'ordinateur. Et on faisait du stand aussi, je faisais du stand. J'ai fait un peu de création de stand.
Jean-François ?
Ah, ça, c'est 69-70, jusqu'en 73.
Et en 73 ?
Mais 73, il faut que je précise quand même, pendant les arts appliqués, j'avais fréquenté une poterie dans l'Indre, à Gargilès, chez Bouddha. Donc lui, il faisait des grands vases immenses en terre noire. Noirci au carbone, c'est-à-dire qu'en fin de cuisson, c'est cuit à 950 degrés, et à la fin du four, on jetait des pneus carrément dans le four. Bon, on ne le ferait plus maintenant. Mais donc la matière était superbe. Et donc, à la sortie des Arza, j'ai travaillé chez ce patron-là qui faisait de l'édition, et j'avais l'intention de créer mon atelier, donc je m'étais acheté un tour. Et rentrer chez moi, je m'apprenais à tourner, à faire des mazagrans, faire des choses comme ça, voilà. Et Bouddha, donc de Gargilès, faisait le salon des ateliers d'art. Il m'a parrainé et je suis rentré au salon des ateliers d'art. Et j'ai eu quelques clients comme ça. Donc j'ai pu gagner ma vie assez rapidement grâce à ça.
Et donc des clients pour de la céramique utilitaire.
L'utilitaire. donc des clients aussi dans le coin, je veux dire,
vous étiez déjà installé à Montpré-Chambord ?
J'étais installé à Montpré-Chambord, oui, j'avais créé, Donc ça, c'était en 76, 60, jusqu'en 80. Si vous avez mangé des crêpes à cette époque-là et des pizzas, vous avez mangé dans mes assiettes.
Voilà. Vous avez fourni tous les restaurants du coin.
Du coin, oui. Et je faisais le salon des ateliers d'art. Donc je revenais et j'avais mes commandes, j'expédiais par la CERNAM à l'époque. Voilà. Et un beau jour, donc moi ça me plaisait pas. Bon, ça m'amusait, mais je voulais faire de l'art. Moi, j'étais pas fait pour faire de la vaisselle. Et à un salon, j'ai divisé mon stand en deux. D'un côté, j'ai présenté mes cafetières, etc. Puis de l'autre côté, des pièces uniques avec mes premières recherches d'émail. Toujours basé sur les émaux chinois, parce que historiquement, ce sont les Chinois qui ont fait les plus beaux émaux au XIIe siècle. Ils ont exploré tout ce qui est possible de faire au-dessus de 1200 degrés, hein. Sauf ce qu'on appelle les cristallisations. C'est autre chose. Et donc, je présente les deux et j'ai perdu la moitié de mes clients. Donc, ce qui fait que la fois suivante, au salon suivant, je l'ai présenté avec pièce unique. Je dis, bon, adieu va. Et là, miracle, j'ai une proposition. La première proposition, c'était Noël Ageste de Céramie de Provence, une galerie qui exposait Prassino, Alechinski, enfin bref, hein, qui propose une expo perso. Et Sarver me propose aussi, au même salon, Daniel Sarver me propose aussi une expo perso dans sa galerie à Paris. Dans la pratique, j'ai fait celle de Sarver en premier, c'était en 82, Noël Ageste après. Et là, après, j'ai bossé uniquement avec les galeries, pratiquement uniquement avec les galeries, avec des rencontres extraordinaires, vraiment.
On est passé un peu vite sur votre installation Montpré-Chambord. Comment vous arrivez à Montpré-Chambord en 76
D'abord, j'étais marié, je venais d'avoir un fils. Donc, au début, je me suis dit, je vais m'installer dans le Midi. Je vais chercher sur Fort-Calquier, je vais trouver quelque chose. Et puis, il fallait des prêts familiaux, donc ça coinçait un peu de ce côté-là, une distance qui était un peu trop grande. Puis surtout qu'à cette époque, la mère de mon fils avait une maison à la Baganerie à côté de la Borde. Et on venait tous les week-ends. Moi, je venais tous les week-ends ici. On venait le vendredi soir, on traversait le parc de Chambord, on voyait les cerfs devant le château à l'époque. Et voilà. Et donc je me suis dit, c'est l'endroit idéal, c'est région de tourisme. Et voilà, donc j'ai cherché, j'ai trouvé cette grande ferme où je suis actuellement.
Et en quoi le fait que ce soit une région de tourisme vous vous intéressait ?
Eh bien, à l'époque, moi, mon souci c'était de gagner ma vie déjà au départ. Donc, et à l'époque, il y avait des caristes. Hein, j'avais des accords avec les caristes qui faisaient, il y a des cars qui s'arrêtaient, puis et les gens venaient surtout fin juillet, fin août pour les cadeaux pour rentrer après les vacances.
Donc, c'est une sorte d'atelier boutique en fait.
Oui, voilà, oui, c'était ouvert au public. Oui.
Et ça a duré combien de temps ?
Oh, ça a duré de 76 à 82, quoi, on va dire.
Jusqu'à ce que ça marche pour vous dans les galeries.
Oui, voilà.
Finalement.
D'accord. Voilà.
Donc là, vous êtes pleinement dans un travail artistique. Est-ce qu'il y a quelques moments, quelques rencontres particulières qui ont marqué votre parcours depuis le début des années 80 ?
C'est le travail avec les galeries. Le travail avec les galeries, j'ai rencontré vraiment des gens vraiment extraordinaires. Déjà, Sarver.
Les galeries françaises au départ.
Ah, les galeries françaises, Sarver, et puis Noël Ageste, malheureusement, elle est décédée assez vite. Sarver, j'ai travaillé jusqu'à ce qu'il arrête sa galerie. Je ne me rappelle plus en quelle année il a arrêté, mais j'avais une exposition personnelle tous les deux ans, et autrement une expo tous les ans de groupe. Daniel Sarver, c'est la galerie qui a quand même qui a marqué le renouvellement de la céramique contemporaine en France. Vraiment, son premier exposant c'était Claude Champy. Sarver était céramiste lui-même et puis il exposait d'autres céramistes. Et puis après, il a été uniquement directeur de galerie. Une autre rencontre extraordinaire, c'est Renate von Derl, c'est une Allemande, de la galerie B15 de Munich, qui un beau jour me téléphone et qui me dit j'ai l'intention d'exposer à Chicago au salon SOFA. Si vous êtes d'accord, vous faites une exposition personnelle là-bas. Bon, c'est assez réjouissant. Non, j'ai accepté, évidemment. Donc, et puis après, c'était le début d'un travail vraiment extraordinaire. Ouais. Si j'ai des pièces aux États-Unis, c'est grâce à cette personne, oui, vraiment. Ouais. Et dans les musées allemands. Ouais.
Est-ce que vous avez été amené à faire des salons aux États-Unis ou à travailler avec des galeries aux États-Unis?
Alors, avec la galerie Hélène Droite, oui, oui.
Et l'histoire avec la Chine, ça...
Alors, l'histoire avec la Chine, c'est... j'avais déjà exposé au Japon et puis à Séoul. Mais la Chine, c'est un vieux monsieur qui avait décidé de créer des résidences d'artistes céramistes du monde entier dans un village qui s'appelle Fuping, c'est au nord de Xi'an, là où il y a la tombe de l'empereur avec les guerriers. Je le rencontre à Paris, et puis donc il propose un séjour de 3 mois là-bas. Il fallait payer son voyage, mais là-bas on a été reçus, hébergés. Et on devait laisser notre travail réalisé sur place pour être exposé dans un musée que les Chinois construisaient. Donc ils ont construit un musée pour les États-Unis, pour le Mexique, pour la France, pour l'Allemagne. Enfin bref, c'est hallucinant, quoi. Ça poussait comme un petit pain. Alors moi, j'avais rencontré à Paris. Je lui dis, moi, je n'étais pas très chaud de faire la résidence parce qu'il voulait que je fasse essayer la don là-bas. C'est très dur de travailler dans son atelier parce qu'on n'a pas ses matériaux, on n'a pas c'est un peu compliqué. Donc j'ai dit j'accepte à condition qu'on visite tous les sites historiques de production des céladons sous les Song. Donc c'est 12e siècle, 13e siècle. Et il a dit ok, on fait ça chacun avec son porte-monnaie. Et puis alors je suis allé là-bas et en fait lui il avait habilement transformé, il avait créé un symposium qui réunissait tous les éditeurs de revues céramiques internationaux. Et à la fin de ce colloque, généralement, il y a ce qu'on appelle un post-tour, c'est-à-dire c'est un voyage. Et ce voyage, c'était mon programme. Moi, j'avais donné une liste des sites que je voulais visiter. Et ça a été voilà. Et donc, à chaque fois qu'on est dans un lieu, donc il me faisait faire une conférence comme ça, parler de mon travail, etc. Donc, il traduisait en chinois. On ne se comprenait pas très bien, parce que moi, je parle très mal anglais. Mais il était très bavard, ça se passait bien.
Et est-ce que les Chinois ont un regard très différent qu'il porte sur votre travail par rapport aux Européens?
Alors, moi, je pense qu'il va bien parce que je fais du céladon. Et j'en ai fait vraiment une passion. C'est une passion pour moi. Donc, ils n'y sont pas insensibles. Voilà. Là, dernièrement, j'ai 4 pièces qui viennent d'être achetées par un musée d'une ville en dessous de Shanghai. Un autre petit détail amusant, si j'ai un Chinois qui m'avait demandé de faire un projet pour les Jeux Olympiques derniers, enfin, qui était destiné au comité olympique de Pékin. Voilà, donc j'ai fait ce projet. Et puis il a été présenté à Barre. Alors, j'ai des photos où Barre signe sur les pièces réalisées en Chine. Moi, j'ai fait le projet simplement, et puis il a été réalisé en Chine. Mais c'est un travail de publicitaire, hein, c'est pas...
Alors, je vois que le temps file très vite. Moi, je vais poser encore une dernière question, parce qu'après, je pense qu'il y aura beaucoup de questions dans la salle. Il y a en plus une question qui sera peut-être complètement à côté de la plaque, mais je me lance quand même. Parce que vous m'avez donné pas mal de choses à lire, que j'ai lues attentivement, et je n'ai lu aucune forme de parallèle entre vos recherches et d'autres artistes, finalement, qui travaillent sur la couleur, qui travaillent sur la lumière. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre votre travail et le travail, par exemple, de Pierre Soulages sur l'Outre Noir? Ou est-ce qu'on peut faire un parallèle avec le bleu d'Yves Klein?
Anish Kapoor, qui vient de breveter un noir mat, le vert véronèse, Klein et le bleu. Oui, on peut faire...
J'ai d'abord pensé à Pierre Soulages et avec l'Outre Noir, parce que finalement, le céladon, c'est à la fois une couleur, mais c'est une matière, finalement.
Pour moi, c'est moins une matière qu'une... une couleur qu'une...
C'est moins une couleur qu'une...
Pour moi, c'est la translucidité. Ouais. Quelquefois, je dis le céladon,
c'est...
Lumière,
vous parlez beaucoup de lumière, en fait.
Je dis le céladon, c'est mon marbre. Pour moi, c'est parce que je trouve que ça fait vivre une forme d'une manière vraiment particulière. Le mat tue les formes. C'est pour ça que Anish Kapoor, c'est pour que les formes soient détruites. Le brillant aussi détruit. Le miroir détruit parce que la forme est plus visible. Mais il y a quelque chose de particulier dans une lumière qui est comme ça, qui est grasse. Là, c'est là où le où le volume a le plus d'intensité, a le plus de présence, je trouve. Et le fait qu'il soit translucide, un peu comme ça, que la lumière le pénètre et l'illumine, c'est quelque chose qui me séduit. Justement, c'est ce rapport-là ce qui m'intéresse le plus. C'est aussi du plein. Moi, l'idée du plein et du vide, en céramique, c'est très présent. Le plein, le vide. En contenant, c'est un plein, un vide. On retrouve ça, c'est un thème qu'on retrouve souvent en céramique. Mais dans la matière elle-même, le céladon, c'est aussi du plein du vide, c'est la lumière à l'intérieur de la matière.
Je comprends que ça vous parle, Pierre Soulages, notamment. Et est-ce que vous auriez comme ça quelques artistes que vous pourriez citer qui vous parlent aussi?
Moi, je suis vraiment très axé céramique. Je ne peux pas dire que j'ai une inspiration de d'autres disciplines. La céramique, c'est un langage qui est vraiment particulier. Et moi, je tiens justement à, dans mes œuvres, que mon moyen d'expression soit vraiment la fusion de la roche, quoi. Trouver mon inspiration dedans.
Et pour autant, on a parlé de musique. Vous avez évoqué la calligraphie. Enfin, il y a quand même tout un univers autour de la céramique que vous convoquez, qui n'est pas que spécifique à la céramique.
Oui, le dessin, oui. Le dessin. Dans les calligraphies, c'est le dessin, oui. Et d'ailleurs, je dessine, c'est les calligraphies, ce que j'appelle les calligraphies, sont les seules formes que je dessine. Les autres, c'est parfois, j'appelle ça l'écriture automatique, c'est-à-dire que je me vise la tête et puis je vais faire une forme dans la terre. Mais j'ai vu des pièces, mais c'est en Chine, justement, dans Anish Kapoor, qui utilisait la translucidité du marbre. Des formes carrées, comme ça, où l'épaisseur devenait très fine, où ça s'illuminait. Oui, ça m'inspire aussi, oui.
Ça marche. On passe peut-être à une séance de questions, si vous avez des questions dans le public à poser à Jean-François, oui.
Oui, je voulais juste avoir votre point de vue quant au renouveau de la sculpture céramique qu'on voit apparaître depuis 5-6 ans, peut-être une toute petite dizaine d'années en tout cas. C'est quand même étrange que tout d'un coup la sculpture céramique reprenne quand même ses lettres de noblesse et soit vraiment au devant de la scène. Et je voulais avoir votre avis, vous qui naviguez dans la céramique depuis tant de temps, comment vous expliquez ça, comment vous voyez ça, voilà, avoir votre opinion sur ce phénomène.
Oui, c'est un mouvement du siècle. Oui, il y a une féminisation aussi du métier, très forte. Moi, je me considère un peu comme un ancien. Je suis fidèle à la céramique. Pour moi, il y a deux sortes de céramique. Il y a la haute température, celle qui est vraiment la recherche de matière. Et puis, il y a l'autre céramique que je ne renie pas. Une bonne pièce, je l'apprécie. Mais c'est une céramique qui utilise des matériaux achetés dans le commerce. C'est-à-dire, c'est les émaux de basse température qu'on va acheter, qu'on pose, et puis on l'achète, on voit sa couleur, on le pose, ça a la même couleur. Il n'y a pas de transmutation. Moi, je suis attaché à la céramique, la céramique au-dessus de 1200 degrés, où on va dans le jardin, on va prendre une roche, quelque chose, on va la faire fondre, ou en lozère, chercher un feldspath. Je suis attaché à ça. Moi, je trouve qu'il y a une dimension de la céramique qui est perdue. Il y a beaucoup de jeunes qui travaillent des formes très compliquées, des animaux, des choses un peu extraordinaires, avec des émaux achetés dans le commerce, où, voilà, comme on pose de la peinture sur... J'ai écrit un texte, il est dans le catalogue de la piscine, où je parle de la céramique en tube. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Il y a un passage, il y a des espèces de changements. Et la céramique que je pratique, je pense qu'elle s'effiloche un peu, ça. Oui, c'est ma génération. Oui, même un peintre qui va acheter ses tubes chez le marchand va rajouter toujours un petit truc qu'il va personnaliser. Je me souviens de Jean-Gilles Bader qui avait toujours travailler avec de la cire, travailler avec des matériaux totalement imprévus. Il s'approprie, il achète peut-être le matériau, mais il se l'approprie, il en fait autre chose. Je crois que c'est plus fort, pour un artiste, c'est plus fort que lui. Il faut trouver quelque chose de spécial, une matière un peu spéciale.
Oui, moi c'est une question un peu technique. J'aimerais revenir sur la première vue que vous nous avez présentée.
Oui.
Je suis surpris par la finesse de la forme,
ouais.
Et comment je veux dire, le matériau est quand même assez, assez souple. Et ouais. Comment fait-il à tenir? Comment vous faites? Vous couchez la pièce? Comment elle peut, cette forme en S?
Oui, elle cuit pas dans cette position-là, dans la position où elle est vue.
Mais quand vous la travaillez, c'est pareil aussi.
Par contre, quand je... Alors, ça dépend.
Parce que là, même sur celle que vous voyez, voilà.
Ouais. Voilà, cette forme-là.
Bel exemple.
Alors, au début, je l'ai réalisé. Je prenais une masse à parallépipède de ce volume-là. Les bords, les côtés, là, c'était les bords de mon parallépipède. Et avec la lame, je sculptais la forme au-dessus, en creusant, comme ça. Et après, j'ai vidé. Tout était taillé dans la masse. Et je l'ai cuisé debout, comme ça. Mais la terre, c'est du grès, la terre, ça ramollit. C'est-à-dire qu'il y a une déformation due à la vitrification de la terre, donc elle ramollit. Et donc, mais dans une forme comme ça, généralement, les épaules s'affaissaient. Donc ça se recourbait vers l'intérieur, par le poids, entraîné par le poids du centre.
Comment faites-vous ?
Alors, je trouvais ça beau. Puis au bout d'un moment, j'en avais marre. J'ai dit, je veux avec des épaules droites. Et j'ai eu l'idée de fabriquer une plaque avec ce qu'on appelle une croûteuse, c'est-à-dire on passe la lame entre deux cylindres et on fait des grandes plaques. Et donc comme ça, la plaque est faite avec la même argile que la pièce, et la pièce cuit couchée sur cette plaque. Donc c'est la plaque qui éponge toutes les variations dimensionnelles dues aux dilatations de la chaleur, et donc elle bouge pas du tout. Et elle ressort droite. Et ça, c'était un tournant pour moi. Parce que d'avoir perçu que je pouvais cuire une pièce qui, redressée, paraissait impossible, alors que la réalisation est toute simple. Il suffit de la cuire couchée, bon, avec des petites cales pour pas qu'elle colle, parce que les mailles collent, hein, sur la plaque d'enfournement, les mailles collent. Hein. Donc en trouvant des astuces pour pallier cet inconvénient. Mais ça m'a permis de faire les grandes calligraphies. Ça, elle fait 85 cm de long, et puis... Elle est vraiment très haute. C'est absolument impossible à cuire debout comme ça. C'est impossible. Mais souvent, ce sont des découvertes techniques qui offrent un champ de création incroyable.
Je voulais savoir, effectivement, quand tu as fait les arts appliqués, j'imagine que tu avais une liberté parce que tu es allé sur un matériau que tu avais choisi toi-même, etc. Et j'imagine que tu avais une certaine liberté et qu'on te laissait une certaine liberté. Ce qui n'existe pas forcément actuellement, je connais quelques écoles d'art et en fait, comme tu disais tout à l'heure, c'est de la céramique, j'allais dire, de la céramique épicerie, où c'est-à-dire que les élèves sont libres à la limite de la forme, mais on achète pour des questions d'économie, et c'est souvent comme ça, on achète les émaux, effectivement, comme tu disais, les émaux tout faits et tout, et dans les écoles d'art, à part dans les écoles d'art parisiennes ou d'autres écoles d'art UP, on peut aller vers des matériaux plus nobles, mais je crois que les écoles d'art n'ont pas les moyens actuellement, ou on ne leur donne pas les moyens d'inventer leur émaux. On peut demander à Jean-François Fouillou d'avoir fait 20 000 expérience pour trouver le céladon qu'il cherchait et qu'il n'a pas encore complètement trouvé, même s'il en a trouvé, alors qu'on ne peut pas demander à un élève d'une école d'art qui va passer quelques heures dans la semaine à l'école de faire 10 000 essais des mots pour obtenir quelque chose.
Oui, non, mais ça, c'est travail personnel. C'est, je pense que les heures appliquées à mon époque, c'était 4 ans. 4 ans avant d'avoir le diplôme, on passait dans tout un tas d'ateliers. Je fais de la sculpture sur pierre, sur bois. C'était Volti qui était le professeur de l'atelier de sculpture sur bois. Je faisais du modelage, énormément de dessins, comme j'ai dit, là, dessins à vue, vraiment, avec Roger Plein. On faisait de l'architecture, on faisait de la fresque, de la céramique, l'orfèvrerie. Enfin, on passait vraiment dans tout un tas d'ateliers. Les mailles sur métal. Et ce qui fait qu'après, je suis resté un an et demi supplémentaire après mon diplôme, uniquement dans l'atelier de céramique, pour apprendre à tourner. Parce qu'au début, l'atelier de céramique, je suis sorti des arts appliqués, je ne savais pas faire de l'émail. Hein. contrairement à Claude Champy, qui lui a fait l'école des métiers d'art, qui était l'école qui était là à l'hôtel Salé, où il y a le musée Picasso maintenant, mais à l'époque c'était l'école des métiers d'art, où là De Jong, Champy et Larpent, par exemple, sont sortis. Eux, ils avaient des cahiers de recettes, ils savaient faire des émaux. Non. Alors, les céladons chinois, ils se faisaient donc au sud de la Chine, cuits au bois, dans les fours dragons. C'est des fours qui faisaient minimum 40 mètres de long. 40 mètres de long, parfois près d'une centaine de mètres. 2 mètres de large, 2 mètres de haut. C'était juste un tube sur une pente. C'est-à-dire que c'est à la fois c'est un four et une cheminée. Et le feu se déplace. Hein, imaginez la cigarette là, comme ça qui brûle, et le feu, voilà, quand il commence en bas, il préchauffe les pièces du dessus, voilà, et il cuisait à 1250. Au nord de la Chine, c'était cuit au charbon, hein, c'était des fours différents et cuit au charbon. Mais dans les deux cas, les pièces étaient cuites dans des boîtes, dans les casettes. C'était des espèces de cylindres où dans chaque cylindre il y avait une pièce et c'était empilé comme ça pour protéger des cendres et des vapeurs. Parce que ça déforme complètement. Si la cendre tombe sur les mailles, on n'a plus un beau céladon, c'est fini.
Suivre la discussion peut-être un peu plus technique. On peut peut-être inviter les personnes qui le souhaitent à se rapprocher des objets que vous avez apportés, parce que justement, c'est très lié à ces questions de cuisson, de très technique en fait. Voilà, merci beaucoup en tout cas Jean-François.
Je vais vous montrer, ça c'est un travail précédent, le céladon. C'est ce que je faisais avant. Donc à l'époque... Donc c'est un rouge de cuivre, des bleus de fer, et j'émaillais au pistolet. C'est-à-dire les formes, je les faisais... ça, c'est une forme tournée, mais je faisais des grandes formes modelées. Et je vaporisais des très fortes épaisseurs d'émail de couleurs différentes. Et je provoquais des cuissons très brutales, avec des débuts de cuisson très, très brutaux, de manière à ce que la matière se casse. Et parfois, même avant de mettre la pièce dans le four, je vaporisais, ou pinceau, je jetais de l'eau sur la pièce pour qu'à cet endroit-là, il y ait une cassure qui se produise. Alors souvent, il y a beaucoup d'émail qui tombait sur la plaque d'enfournement, mais le résultat, c'est que j'avais un graphisme qui se créait d'une manière aléatoire. Et à l'époque, je conservais une pièce sur sept. Je faisais un tri, je signais mes pièces qu'à la sortie du four. Alors ça, c'est 86. Ça, c'est juste... Je faisais ça quand Daniel Savère a proposé l'expo sur le céladon de groupe. Et j'ai abandonné ça. Mais à l'époque, j'avais fait même un travail de superposition de matière, parce que les plaques d'émail qui tombaient sur la plaque d'enfournement créaient des amas uniquement d'émail qui étaient vraiment très corrélés. Voilà. Ça, c'est le genre de matière qui tombait sur la plaque d'enfournement. Et donc, j'ai commencé un travail par accumulation d'émaux. C'est-à-dire que je biscuitais mon émail. Je fabriquais de l'émail, je le mettais sur des plaques, je précuisais à 950 degrés, de manière à ce que ça durcisse. Je cassais les plaques et je les accumulais. Et ça, c'était une des premières... Ça fait plus de 80 cm de long, là. Ça n'est que de l'émail. Donc j'avais commencé un travail comme ça, de superposition de matière. Mais Sarver propose cette expo sur céladon, et c'est... Et j'ai interrompu ce travail.
Je crois que ça sonne la fin de cette rencontre. Maintenant, ouais. Merci Jean-François. Et donc, les personnes qui le souhaitent peuvent venir observer et même toucher, hein, d'ailleurs, les objets que vous avez apportés. Et puis, on peut en profiter pour boire un petit coup.
C'était la rencontre d'artistes en circuit court. L'intégralité des 5 rencontres sont d'ores et déjà disponibles sur le site de Studio Zef à la page Artistes en circuit court. Et rendez-vous donc tous les jeudis à 17h au mois d'août pour écouter ces 5 rencontres. Salut à tous et à toutes!